la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Christelle Yesseau.
Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette édition. Le gouvernement attend des clarifications des ministères des Finances et du Budget ainsi que du ministère de l'Intérieur suite à un rapport de la Cour des comptes sur le faible recouvrement des taxes liées aux cartes nationales d'identité et passeport en 2022, a annoncé le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly à l'issue du premier conseil des ministres 2024. Une croissance économique de 7% pour la Côte d'Ivoire en 2024, possible grâce au secteur secondaire et primaire et selon des projections du ministère des Finances et du Budget, explique Dr Germain Cramo, enseignant-chercheur en économie. Au Sénégal, la Cour suprême statue sur le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko. On démarre en économie. Le gouvernement salue le travail de la Cour des comptes qu'il qualifie de remarquable pour avoir souligné un manque dans le revenu de l'État ivoirien en 2022 pour l'enregistrement des timbres et passeports, d'après les propos du porte-parole du gouvernement au sortir du premier commerce du premier conseil des ministres de l'année. Écoutons Amadou Koulibaly.
Pour ce qui est du rapport de la Cour des comptes, il y aura un communiqué du gouvernement en ce qui concerne donc les questions de recouvrement, puisque vous voulez parler donc des recouvrements du passeport et puis des frais de carte d'identité, donc de l'ONESI et de SINEDAI. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont cités de façon claire dans le rapport. Alors là-dessus, le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Intérieur, qui sont en premier lieu concernés par ces questions, vont dans la journée très certainement prendre un communiqué. Maintenant, pour ce qui est de la confiance, je voudrais rappeler que SINEDAI a une concession de l'État et cette concession est vieille. Elle date des années 2006-2007. Maintenant, il y a pu avoir quelques écueils. Dans le cadre du contrôle permanent de l'action de l'État, c'est l'État lui-même qui a détecté ces écueils et s'est donné les moyens de les corriger. Donc, je ne vois pas pourquoi un État qui se donne les moyens pour mettre de l'ordre dans le fonctionnement des structures qui l'accompagnent doit être voué aux gémonies ou cloué au pilori. Désolé d'être optimiste, le verre pour moi il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Ce que je vois, c'est que toutes ces structures de contrôle qui ont été mises en place fonctionnent et cela est à saluer. Ce n'est pas une tierce personne qui est venue faire remarquer cela, ce sont les propres structures de l'État et ça, c'est bien la preuve que nous sommes bien engagés sur la voie de la transparence, sur la voie donc du respect des règles de bonne gouvernance.
C'était Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, au micro de Junior Cardin. Également ce jeudi, 4 ambassadeurs nouvellement accrédités en Côte d'Ivoire ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo. Il s'agit de Carole Van Eyl d'Égypte, Ali Youssef des Émirats Arabes Unis, Mohamed Al-Saïdan du Qatar et Chérif Abbas d'Égypte. Tous ont salué la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leur pays. Les propos de l'ambassadeur d'Égypte, Chérif Abbas, à sa sortie d'audience.
Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a discuté plusieurs sujets. On a commencé par... j'ai félicité Monsieur le Président pour la position forte qu'il a eue envers la situation à Gaza. Et aussi, on a parlé de la situation de... relations entre les deux pays. Les relations entre les deux pays sont des relations exceptionnelles et très fortes. Et on a discuté aussi d'effectuer une visite pour Monsieur le Président de l'Assemblée nationale en Égypte. C'est un aspect très important de notre relation. Et encore, j'ai parlé avec Monsieur le Président à propos de de groupe parlementaire entre les deux pays. Et l'Égypte va faire de son côté un groupe parlementaire qui peut aider beaucoup les relations parlementaires entre les deux pays et qui peut aider aussi les relations entre les deux peuples frères de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte. Merci.
Vous venez d'écouter Chérif Abbas, nouvel ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, interrogé par Junior Cardin. Suite au sommet Rue New Pack 2023 et à l'Assemblée générale du réseau libéral africain, RLA, qui se sont tenus au Sénégal du 3 au 6 décembre 2023, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiémoko Touré, a animé ce jeudi au plateau une conférence de presse afin de dresser le bilan de ces rencontres à Dakar. Il en ressort que la Côte d'Ivoire est reconnue internationalement comme modèle de réussite pour les gouvernements libéraux en Afrique. Le ministre s'est par ailleurs exprimé sur les quatre principaux acquis et les perspectives pour le pays. Écoutons-le dans cet extrait.
S'agissant des acquis, on peut noter quatre axes. Premier axe, la reconnaissance internationale de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire a été saluée comme un modèle de réussite des gouvernances libérales en Afrique, ce qui lui a valu la confiance des organisations libérales pour accueillir d'ailleurs plusieurs événements en 2024 à Abidjan. Il s'agira du congrès mondial de l'IFRI, qui est la Fédération internationale des jeunesses libérales au niveau mondial, pour le mois d'avril 2024. Il s'agira aussi pour Abidjan d'accueillir un atelier de formation des jeunes leaders africains, membres de l'ALIF, qui est le réseau libéral des jeunesses africaines, ceci prévu pour le premier semestre. Nous avons aussi obtenu la réalisation ici à Abidjan de l'Assemblée générale du réseau libéral africain, ceci au milieu de l'année 2024. Et enfin, le prochain sommet du Renew Pack aura lieu au mois de décembre à Abidjan. Ainsi, toute l'année 2024, Abidjan sera la capitale mondiale du libéralisme par l'organisation de cette série d'activités de haut niveau. L'autre acquis du sommet est la création de l'Académie africaine du leadership politique. L'idée de cette académie que nous avons suggéré est de combler un vide sur le continent africain.
Sidi Thiémoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a tenu ce jeudi sa 22e session d'échange avec la presse ivoirienne à son siège à Cocody. Sur la question de la gouvernance économique, le président exécutif, Sébastien Dano Djedjé, qui animait cette tribune, a invité le gouvernement à réduire le train de vie de l'État en supprimant certaines institutions jugées budgétivores ou encore consolider le pouvoir d'achat des populations par la subvention des produits de première nécessité. Commentant également le discours de nouvel an du président Alassane Ouattara, Dano Djedjé estime que le bilan dressé est loin d'impacter directement et durablement les conditions de vie des populations. Dans son discours à la Nation le 31 décembre 2023, Alassane Ouattara annonçait une croissance économique de 7% pour le pays en 2024. Docteur Germain Cramo, enseignant d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny, explique que cette croissance serait engrangée par les secteurs secondaires et primaires en tenant compte de la dynamique de la croissance en 2023, selon des projections faites par le ministère des Finances et du Budget. On l'écoute.
Cette croissance serait tirée par le secteur secondaire et aussi le secteur primaire. Donc c'est à partir d'hypothèses émises que cette projection a été faite. En tenant compte de la dynamique de la croissance en 2023, il y a des projections qui sont faites pour dire que la richesse créée en Côte d'Ivoire va augmenter de 7% en 2024. Donc en regardant comment le secteur secondaire a évolué, comment le secteur primaire a évolué et comment les principaux produits d'exportation ont évolué, on émet des hypothèses selon lesquelles on va suivre cette même tendance, donc ce qui nous permet d'avoir une projection pour cette croissance estimé à 7% en 2024.
Et donc, c'est fait sous la base de certains calculs?
Si, c'est sur la base du calcul, surtout d'hypothèses. Comme je l'ai dit, on va projeter ce qu'on appelle généralement le cadrage macroéconomique. Donc, on essaie de voir comment les principaux agrégats macroéconomiques vont évoluer. Et aussi, cela est fait sur la base d'hypothèses. On fait l'hypothèse que les choses vont évoluer de cette manière. Donc, sur cette base, voici comment nous projetons cette croissance en 2024. Et selon les perspectives, cette croissance serait tirée principalement par le secteur secondaire, surtout les BTP, où on tape sur une croissance de près de 16%, suivi du secteur de l'énergie, où nous aurons plus ou moins une croissance de 9%. Et à cela aussi, il faut ajouter le secteur des télécoms qui vont connaître une croissance autour de 7%. Donc c'est avec toutes ces projections pour ces différents secteurs d'activité, on aboutit à une croissance de 7% et sans oublier que cette croissance, comme le président même l'a dit, sera aussi tirée du côté de la demande par les investissements.
Vous venez de suivre Dr Germain Cramo, enseignant d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny, contacté par Jean-Claude Mabéa. À présent, direction la ville de Boaké, où les journalistes ont pris d'assaut les rues de la ville le mercredi 3 janvier. Objectif, mener des actions de salubrité en vue de soutenir les autorités municipales dans leur action dans le cadre de l'organisation de la CAN. Joseph Assalé, notre correspondant régional, était de la partie.
Qui balayant les trottoirs, qui curant les caniveaux, les journalistes des professionnels de la communication de Boaké ont mis la main à la pâte pour soutenir les autorités municipales dans leur effort d'assainissement de la ville. Le président de l'UNAJCOPSI, Union des journalistes et correspondants de presse de Côte d'Ivoire, justifie ici la motivation de cette initiative. Ladji Abou Sanogo.
Boaké, où nous vivons, est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, où la Coupe d'Afrique doit se jouer. Nous avons vu le ministre député maire Amadou Koné donner l'exemple en lançant l'opération de salubrité et lui-même en tant qu'autorité est descendu dans le caniveau pour donner l'exemple à sa population. Nous journalistes, alors nous ne pouvons pas rester en marge de cette opération-là. C'est pourquoi nous avons mobilisé tous les journalistes de Boaké comme un seul homme pour apporter notre concours, notre soutien à l'opération de salubrité, pour apporter un plus à l'organisation de la CAN. Nous voulons à travers cet acte-là dire que nous sommes aujourd'hui des journalistes modernes, des citoyens modèles, acteurs du développement.
Guy Roger de Radio Côte d'Ivoire.
À l'approche de la CAN, nos autres viendront en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils trouvent une ville propre afin qu'ils puissent repartir chez eux en bonne santé. Et nous, les journalistes, on veut nous mettre dans la danse.
Pour ma Maria, l'objectif de ma présence ici est de sensibiliser toute la population à contribuer à la salubrité de notre environnement.
Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
De Boaké, nous arrivons à Mans. Les responsables en charge des eaux et forêts de la région du Tanqui ont convié récemment les autorités administratives et coutumières de la région à une sensibilisation. Il était question de parler de la nécessité de protéger l'environnement et surtout la forêt ivoirienne en pleine disparition, mais aussi de promouvoir le nouveau code forestier datant de 2019. On en sait plus avec Stéphane Adams.
Cette rencontre a été l'occasion pour le directeur régional des eaux et forêts du Tanqui, colonel Évariste Yapo Dian, d'apporter ses éclairages liés à la disparition progressive du couvert forestier de l'Ouest.
Pour l'instant, c'est la seule zone où encore il y a quelques couvertures forestières du fait du relief accidenté. Mais malheureusement, avec l'avènement du sillage à façon, ces reliefs accidentés sont en train d'être dégradés et la ressource en train de s'amenuiser au niveau de la région du Tanqui.
Les flancs des montagnes ne sont pas épargnés dans la mesure où les végétaux disparaissent pour faire place aux habitations.
Il est important que nous puissions protéger ces flancs de montagne-là en effet de permettre ou sinon d'éviter non seulement l'érosion de sol mais également les inondations. Lorsqu'il y a les coupes d'arbres sur les flancs de montagne, cela crée ce que nous appelons la dilatation thermique et qui peut fragiliser un tant soit peu la structure de la roche et entraîner ce que nous appelons l'éboulement des roches, des blocs rocheux qui sont suspendus sur les flancs de montagne.
Une aubaine pour le directeur régional des eaux et forêts du Tanqui, colonel Évariste Yapo Dian, d'instruire les autorités administratives et coutumières sur le nouveau code forestier qui fait une part belle aux propriétaires terriens.
Selon l'article 27 de la loi portant code forestier en Côte d'Ivoire, désormais sont propriétaires de parcelles, de forêts, de d'arbres, tous ceux qui sont propriétaires terriens, notamment ceux qui ont le titre de propriété de cette foncière.
La préservation de l'environnement et la régénération de couverts forestiers doivent être l'affaire de tous, a-t-il conclu. Stéphane Adams, Radio de la Paix.
À l'international, au Sénégal, Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé sur son éligibilité ce jeudi. La Cour suprême doit encore examiner le pouvoir en cassation introduit par ses avocats après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face à l'actuel ministre du Tourisme, Mamoun Baye Niang. En cas de condamnation définitive, l'opposant qui a été récemment réintégré sur les listes électorales perdra ses droits civiques. Et une page sport dans ce journal. CAN 2023, le groupe E de cette compétition se compose de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie qui joueront au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. César Yao nous fait l'analyse des forces en présence de l'équipe de la Tunisie et du Mali.
La Tunisie, l'un des géants de ce groupe E, se présente avec une équipe solide et bénéficiant d'une riche histoire dans la compétition. Les Aigles de Carthage ont terminé en tête de leur groupe de qualification, 14 points avec un bilan globalement satisfaisant de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Lors du dernier rassemblement de novembre dernier, les troupes de Jalel Kadri ont réussi à prendre le scalp de Sao Tomé Principe 4 buts à 0 et du Malawi 1 à 0 à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali, une bonne tête de surprise. Effectivement, en cette formation, s'est qualifié facilement pour cette CAN ivoirienne. Premier du groupe G avec 15 points et un bilan quasiment parfait de 5 victoires. Pour une seule défaite, les Aigles auront à cœur de confirmer les folles promesses affichées lors de ces éliminatoires. La Tunisie et le Mali, deux sélections qui se connaissent d'ailleurs très bien, pour s'être déjà affrontées en phase de groupe des deux dernières CAN. Un but partout en 2019 et une victoire malienne 1 à 0 en 2021 dans des circonstances ubuesques. Sur les 12 confrontations de leur histoire, les Aigles de Carthage l'ont emporté à 6 reprises pour 4 victoires maliennes et 2 matchs nuls. Le dernier double affrontement remonte à mars 2022 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La Tunisie avait remporté la première manche sur la plus petite démarche, 1 à 0, tandis que le retour s'était soldé par un nul, 0 à 0. La Tunisie a 20 participations, meilleure performance, vainqueur en 2004. Le Mali a lui 12 participations pour meilleure performance, seulement finaliste en 1972.
Toujours dans le cadre de l'organisation de la CAN, la ville de Mans fait peau neuve. Déguerpissement et déblayage des artères principales sont à l'ordre du jour. Une équipe de la municipalité, conduite par le premier adjoint au maire, Ouattara Dramane, effectue des visites de terrain et sensibilise usagers et commerçants à l'assainissement de la ville. Des détails dans ce dossier d'actualité avec Stéphane Adams.
À l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la ville de Mans ne veut pas être en marge de l'événement. La question de l'assainissement de la ville est au cœur des préoccupations d'Osso Noël, habitante.
Avec ce que nous allons voir cette année, la CAN, Mans est une ville touristique. Il faudrait qu'on garde les lieux propres pour ne pas qu'on soit désagréable aux yeux du monde entier. Parce que les gens viendront de partout pour découvrir la Côte d'Ivoire.
Face à l'enjeu du moment, une visite de terrain avec le premier adjoint au maire de Mans, Ouattara Dramane, nous a conduit à la grande gare routière de la dite ville et sur les principales voies qui accèdent au marché, communément appelé Kakasport. Au terme de cette inspection, il fait cette observation.
On a parlé aux transporteurs parce que ce sont eux qui transportent les personnes et qui les déversent sur les voies. On a parlé aussi aux petits commerçants qui viennent s'installer sur les voies passantes et qui obstruent le passage des véhicules. Nous avons décidé donc de mettre de l'ordre pour faire en sorte que les instructions du président soient respectées dans toute la commune de Mans. Nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. On ne saurait être en dehors des instructions. Dans un premier temps, c'est une sensibilisation. Demain, ce sera avec la rigueur. Une phase réflexive qui va permettre de mettre en jeu la direction régionale de la salubrité de l'assainissement à débarrasser la ville de toutes les installations anarchiques.
Sur les lieux, les commerçantes qui semblent opposer une fin de non-recevoir voilée à la requête du maire posent le problème autrement.
Zigné Hélène, je vends des bananes, aubergines, gombo. Quand ils ont dit tout à l'heure qu'on a qu'à dégager, ça nous effraie. Mais pour avoir place, c'est ça qui est le problème. Le policier vient dégager, c'est pas moi qui va dégager. On est beaucoup. On serait aussi beaucoup à chercher.
Bon, monsieur Emilène, je vends graines, bananes, tomates. On nous dit de quitter sur la route, on sait pas où on va partir. À moi ici là, à faire des places, ça n'est pas facile. Tu tournes, tu gagnes pas place. Mais là, marché des droits guinéens là, ce qu'ils ont déjà fait là-bas, les femmes qui sont là-bas là, elles ont déjà tout occupé. Toi, tu vas t'élever, tu vas aller là-bas. Comment tu vas avoir place? Ça peut pas aller. Non, c'est lui, il est notre solution. Tout ce que nous on peut lui dit là, il n'a qu'à nous donner une place, on va quitter sous la route. S'il vient nous dégager, dès qu'il donne, on vient s'asseoir, on n'a pas un coin pour se débrouiller. C'est ça qui est là, c'est notre secret qui est là, on ne peut rien faire.
Notons que pour véritablement réussir, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire, l'ensemble du gouvernement ivoirien, à travers le COCAN, compte sur l'apport individuel de chaque Ivoirienne et Ivoirien. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Et c'est ici que prend fin cette édition. À présent, le rappel des titres. Le gouvernement attend des clarifications des ministères des Finances et du Budget ainsi que du ministère de l'Intérieur suite à un rapport de la Cour des comptes sur le faible recouvrement des taxes liées aux cartes nationales d'identité et passeports en 2022, a annoncé le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly à l'issue du premier conseil des ministres 2024. Une croissance économique de 7% pour la Côte d'Ivoire en 2024, possible grâce au secteur secondaire et primaire et selon des projections du ministère des Finances et du Budget, explique Dr Germain Cramo, enseignant-chercheur en économie. Et au Sénégal, la Cour suprême statue sur le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine Santé pour tous avec Paul-Bénédicte Boulou.
Santé pour tous.